Ex-aequo, c'est écrit de manière phonétique parce qu'on a tous nos manières de penser ou même d'écrire ou lire. Donc, je l'épelle pour plus qu'il y ait d'ambiguïté. E-X-E-K-O, voilà. Si je vous dis tout ça, c'est pour introduire un organisme fabuleux, étonnant, inventif. Donc, ex-aequo, ça veut dire à égalité, c'est des vieux pieux, mais comment on peut arriver à faire ça, à faire que tout le monde se comprenne au fond? On a avec nous pour discuter de l'organisme et de l'action Dorothée de Colasson, chargée de projet pour Ville inclusive chez ex-aequo. Bonjour, Madame de Colasson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. On aime beaucoup recevoir parce que votre équipe est grande, foisonnante et vous êtes toujours très inventif. Mais avant qu'on présente l'organisme, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Donc, vous êtes une médiatrice culturelle. Qu'est-ce que c'est exactement la médiation culturelle?
Alors, la médiation culturelle, moi j'ai fait des études de médiation culturelle et la définition qu'on m'a donnée, qui m'a le plus marquée, ou en tout cas que je trouvais le plus claire, c'était que le médiateur, c'est le pont, c'est celui qui est le trait d'union, en fait, entre des supports de la culture, voire, si on veut un peu plus loin, des pratiques culturelles et des publics.
Okay.
Donc, c'est comment est-ce qu'on peut rendre plus accessible la culture en termes de contenu et en termes de pratiques à tout type de population.
Donc, faire le pont entre l'art et les personnes, peu importe où elles se trouvent, peu importe leur niveau de connaissance sur l'art,
peu importe leur niveau de connaissance, leur origine.
OK. Puis je m'intéresse un peu à votre parcours. En fait, j'ai vu que vous avez déjà fait un mémoire sur le rire et la communication. Ça m'a beaucoup intriguée. Dites-nous quelques mots là-dessus.
C'était dans le cadre d'études de publicité et l'idée, c'était justement de prouver comment, en quoi le rire peut servir la communication, notamment dans la publicité. Donc voilà, c'était...
Est-ce que ça marche? Est-ce que...
Oui.
Je sais qu'il y a des sociologues, des anthropologues qui ont travaillé là-dessus. Là, on a déjà été des singes qui ont ri, là. Mais qu'est-ce que vous avez étudié exactement sur le rire? Je suis intéressé à ça.
Ça remonte à il y a quelques années. Mais l'idée, c'était juste d'étudier comment l'humour est utilisé dans la publicité, dans la communication, y compris en politique, y compris dans toutes sortes de choses.
Est-ce que vous utilisez l'humour dans votre pratique chez ex-aequo?
Ben, il faut.
Ouais.
Ma petite dose aux bons endroits, mais oui. Surtout le sourire, en tout temps.
Ouais.
Ben oui, ça fait... Je me rappelle dans ce mémoire d'avoir même fait un chapitre sur les bienfaits sur la santé du rire. Fait que...
Ah oui!
Pourquoi on se priverait?
Ah ben voilà, faut pas se priver de rire. Juste vous dire, tout juste à côté, il y a une émission sur la santé. Là, peut-être qu'il faudra vous envoyer voir Marianne Paquette pour discuter
avec
du
plaisir.
Rire ou de la médiation. Donc, revenons quand même à ex-aequo. Vous êtes maintenant un peu partout à travers le Canada, si je comprends bien.
Oui.
Ah, mais c'est récent, ça?
On est principalement à Montréal. On est dans plusieurs communautés autochtones dans le reste de la province. Principalement, justement, au Québec. Mais on commence à avoir des projets un petit peu ailleurs. On a eu des projets au Manitoba. En Colombie-Britannique aussi.
Okay,
ça commence un petit peu à sortir du Québec.
Ah, ben c'est bien. Mais donc, c'est très sexy comme organisme. Vous travaillez avec les exclus, les personnes itinérantes. Mais... Dites-moi exactement, qu'est-ce que vous faites, ex-aequo?
Alors, ben, comme vous venez de le dire, en fait, on travaille avec les personnes en situation d'exclusion. Pourquoi? Parce que ex-aequo, c'est un organisme qui, depuis 2006, s'est donné la mission de rendre la société plus inclusive en utilisant la créativité sous toutes ses formes, en utilisant la philosophie, le développement de la pensée critique, la participation citoyenne. Donc, au début, on a beaucoup, justement, travaillé avec les personnes qui étaient victimes d'exclusion sociale. Donc, ça passait aussi bien par des personnes qui étaient en milieu carcéral, des personnes en décrochage scolaire, en employabilité, beaucoup de personnes en situation d'itinérance, des artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et puis, on s'est rendu compte que si on veut briser justement l'exclusion sociale, il faut aussi travailler avec les personnes qui, consciemment ou non, créent cette exclusion. Donc maintenant, on a comme un petit peu élargi le spectre de nos actions et on travaille aussi avec le reste de la population et puis avec toutes les institutions. Que ce soit les institutions culturelles, la police, etc.
Okay.
Et les politiques pour créer des liens entre ces différentes sphères et créer de la mixité, donc briser les préjugés et puis essayer de faire bouger les choses ensemble.
Donc vous, comme responsable de la ville inclusive, Mme Colasson, c'est votre job au fond, c'est d'aller plus large que seulement deux personnes qui se parlent?
Entre autres. Moi, en tant que chargée du pôle Ville inclusive, je travaille sur principalement quatre initiatives, dont une qui est émergente.
Okay.
Mais c'est des initiatives qui se passent plus en milieu urbain et qui visent toutes, sous des coutures différentes, à rendre justement accessible la culture, la pratique culturelle, mais aussi le savoir et puis à donner un accès à la parole, puis à redonner à chaque citoyen sa place au cœur de la cité, en fait.
Ben, c'est bien parce que vous avez parlé de l'art au tout départ, mais ce qui est fascinant avec Execo, c'est que vous vous intéressez aussi à l'égalité des intelligences. Donc, ce n'est pas seulement d'accéder à l'art qui est important, c'est d'accéder à tout ce qu'on peut savoir pour être dans une cité.
La présomption d'égalité des intelligences, c'est ce qu'on a endossé comme posture éthique à Execo. Ça a été développé par Jacques Rancière, qui est un philosophe français. Et c'est l'idée de présumer, à défaut d'essayer de prouver de l'inégalité des potentiels, parce qu'on entend beaucoup parler de l'inégalité des intelligences.
Ouais.
Nous, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on présume que la personne en face de soi a le même potentiel à créer ou à penser que nous. Peut-être qu'elle n'a pas eu les mêmes opportunités de mettre ce potentiel en œuvre, mais nous, on essaye de voir si on part du principe qu'on est égaux, comment ça peut influencer les relations sociales. Donc, on part de ce postulat-là et puis ensuite, on voit.
Ah oui, parce que c'est sûr que quand on est dans l'égalité, c'est plus difficile qu'une personne ait du pouvoir indûment sur une autre personne. Donc, on est obligé...
C'est plutôt de considérer la personne en fonction de son potentiel que de sa problématique.
Ouais.
Ce qui, dans le cas des personnes qui sont à risque ou à expérience vécue d'exclusion, ça peut être rare d'être considéré pour son potentiel.
OK. Mais ce que j'aime en fait, parce que là, on a du plaisir avec quelques théories, mais ce que j'aime beaucoup de votre organisation, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'inclusion théorique, on est beaucoup dans la pratique de l'inclusion. Et ça m'amène, Dorothée de Colasson, à vous parler de vos projets. Vous en avez quelques-uns. Présentez-nous donc ça. En fait, qu'est-ce que vous faites dans la pratique, là?
Mais, si vous le permettez, j'en ai choisi deux ou trois qui sont
allez-y.
Spécifiquement sur la médiation culturelle.
Ouais.
Notamment un qui est en fait un de nos laboratoires en innovation sociale qui vient de sortir et que personnellement j'aime beaucoup, qui est le laboratoire Culture Inclusive.
Okay.
Ce que je trouve assez formidable, là j'enlève un petit peu ma casquette Execo pour parler avec les tripes, c'est que en fait c'est les 11 plus grosses structures culturelles de Montréal. Donc on parle des grands ballets canadiens, on parle de l'Orchestre symphonique de Montréal, on parle de la TOHU, du Théâtre du Nouveau Monde, qui se sont mis ensemble pour que pendant 3 ans, on réfléchisse leurs pratiques en termes d'inclusion sociale.
Ah,
donc ça
ouais.
veut dire que eux, donc ce groupe des 11, en fait, pendant 3 ans, se mettent un petit peu en danger, puisque nous, on va emmener des groupes de plusieurs de nos participants, donc aussi bien des personnes avec une déficience intellectuelle, santé mentale, des jeunes à risque d'exclusion, des personnes en situation d'itinérance, voir des spectacles et des expositions dans tous ces lieux-là,
Ouais.
et former ensuite des recommandations pour l'accessibilité de ces lieux-là.
Ah, mais c'est
Et
c'est
en parallèle,
immense, ouais.
On a des comédiens, des artistes, comédiens, médiateurs, qui vont jouer des scénettes dans ces lieux-là pour tester justement des petites scènes d'exclusion et voir comment c'est reçu dans les structures pour ensuite proposer une charte d'accessibilité culturelle.
OK, donc c'est pas seulement l'évaluation là, très sèche avec des questionnaires et tout, vous allez faire carrément des
ça
expériences.
Ça va se passer, c'est ça. Moi,
des
je trouve
expériences.
Que ça vient me chercher personnellement dans ma fibre de médiatrice, justement.
Ouais.
Un autre projet là-dessus, ce serait peut-être Bibliolibre. Donc ça, c'est né dans la caravane Idéaction Mobile, qui est donc une caravane qui se promène depuis 5 ans bientôt dans les rues de Montréal, pour aller au début un petit peu plus vers les personnes en situation d'itinérance, apporter des livres, du matériel d'art, du matériel pour écrire, des lunettes de vue, et tout ça étant toujours un prétexte à la discussion, puis à la rencontre et au partage. Et donc on a commencé à donner des livres, et puis petit à
Et
petit...
distribuer des lunettes.
Et
Ça, j'adore ça pour les gens qui nous écoutent.
Les
Il y a une
lunettes,
sensibilité là.
C'est ça, mais les lunettes, c'est peut-être la première barrière à l'inclusion. En fait, quand on ne voit pas, on a aussi l'impression de ne pas être vu. Donc, on va commencer par remédier à ça. Mais donc, en donnant des livres, on s'est rendu compte qu'on disait aux personnes de nous les rapporter, mais qu'ils ne savaient jamais quand ils allaient revoir la vanne, parce que c'est son principe, c'est qu'elle est un petit peu aléatoire. Donc, on a créé un réseau. Maintenant, il y a 16 micro-bibliothèques dans Montréal qui sont dans des lieux, des centres de jour ou des refuges, où les personnes peuvent en tout temps aller chercher des livres et les rapporter. Donc ça, c'est un projet, encore une fois, d'accessibilité tant à la culture qu'au savoir, que j'aime beaucoup. Et puis le dernier dont j'aurais aimé parler, c'est Métissage urbain. Donc là, c'est plus sur l'aspect donner un accès à la pratique culturelle à tous. Métissage urbain, c'est l'idée d'accueillir des artistes en résidence artistique au sein de nos propres programmes. Donc eux viennent bénéficier d'un match, en fait, avec un médiateur de chez nous, médiateur intellectuel, qui va venir jumeler de la réflexion à eux, leur démarche de création. Eux viennent avec des projets de création artistique, de co-création, à développer avec les citoyens, souvent dans l'espace public.
Okay.
Et tout ça, c'est l'idée de rassembler les gens autour d'un processus créatif.
Mais donc, on entend, c'est magnifique, vous faites rencontrer des gens, des artistes, des médiateurs et des personnes qui sont à risque d'être exclues. Brièvement, en quelques instants, qu'est-ce que vous avez remarqué comme bénéfice de cette médiation-là? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui étaient exclues puis qui sont moins grâce à votre travail?
Mais moi, j'ai une petite anecdote qui me vient spontanément en tête. C'est une personne qui m'a dit, après avoir créé pendant quelques heures avec nous autour d'une œuvre, justement dans un métissage urbain, que ça lui avait fait un bien fou de... parce qu'il s'était senti comme tout le monde.
Mm-hmm.
Parce qu'on lui avait proposé de participer comme à n'importe qui d'autre. Je pense que c'est ça le fort de l'approche d'Execo, c'est d'adresser les personnes parce qu'ils font partie d'une société, parce qu'ils sont là comme les autres, mm-hmm. et non pas parce qu'ils ont une spécificité... culturelle ou socio-économique. Et ça m'a marqué, en fait, que cette personne dise qu'on lui parle parce qu'elle s'est sentie bien, parce que, justement, elle se fondait dans la masse.
Ouais.
On a toujours tendance à vouloir mettre la lumière sur les personnes, en disant, oh, il faut les valoriser. Mais lui, il voulait juste être comme tout le monde. Et justement, en faisant pas de différence et en s'adressant d'égal à égal, ça a fonctionné.
Mais écoutez, pour voir non seulement ce que vous faites, des actions mobiles, des choses hallucinantes et même partout au Canada, mais aussi ces nouveaux projets, là, votre laboratoire vivant avec les grandes institutions culturelles, on se rend au www.execo, hein, je répète avec un K, donc execo.org, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah, merci infiniment, Dorothée de Colasson, qui est chargée de projet pour Ville inclusive.
Merci beaucoup.